Je rêve d'une lune de miel en Polynésie.
Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon.
Vous lisez dans mes pensées. Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée.
Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti.
Oh, ne me réveillez surtout pas.
Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble.
Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout?
Oui. Avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre.
Vous faites les mariages aussi?
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Sarah Lecoeuvre et Damien Canivez.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis avec Damien Canivez aujourd'hui. Bonjour Damien.
Bonjour, ça va? Bah écoutez, il y a des matins plus compliqués que d'autres, mais ça va
petite
aujourd'hui.
Petite nuit, pareil.
Petite nuit, je vous confirme. Ce
n'est pas le cas de notre invité du jour, qui est une journaliste, présentatrice qu'on adore ici au Figaro, travailleuse du week-end, hein, à la fois à la télévision, à la radio. Elle se lance dans un nouvel exercice, le talk show. On en parle tout de suite dans le Buzz TV. Ophélie Meunier, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous les deux. Merci de me recevoir. Merci pour vos mots.
Depuis deux semaines, vous présentez le nouveau talk show de M6 qui s'appelle La Grande Semaine. C'est chaque samedi à 17h45. Alors pendant deux heures, vous passez en revue les sujets d'actualité, pop, culture, buzz, avec une joyeuse bande. Alors ouais. Ça va du divorce houleux des Brangelina, par exemple, au portrait de la femme à barbe la semaine dernière. Deux émissions ont déjà été diffusées. La troisième est déjà en boîte, je crois,
ouais,
depuis hier. Comment vous vous sentez? Vous prenez peu à peu vos marques sur le plateau, Ophélie?
On est très heureux, vraiment. Je dis « on » parce que j'associe assez instinctivement la bande à cette émission. C'est tellement un exercice d'équipe. Ceux qui sont sur le plateau autour de moi, puis ceux qui sont aussi en coulisses, ça fait des mois et des mois qu'on travaille sur cette émission, elle est enfin là, et c'est une vraie joie. On est tous très motivés, très épanouis, et puis surtout, j'espère que ça va, voilà, que ça va continuer en ce sens dans cette atmosphère là. Mais j'ai pas de doute, quoi. On est vraiment hyper sympa de se retrouver chaque semaine.
Alors avec Sarah, on a regardé les deux premières émissions avec beaucoup d'appétit, et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait eu des ajustements entre la première et la deuxième. Par exemple, on se rend compte que vous ne demandez plus forcément aux chroniqueurs autour de la table dès le début d'émission comment ils vont. Ça va beaucoup plus vite. Est-ce que vous avez décidé de resserrer un petit peu la première partie?
Oui. Alors ça, c'était un petit clin d'œil de la première.
Oui, d'accord. Ouais.
Plutôt juste pour s'amuser, de se dire, ça y est, c'est la première.
Ouais.
Alors comment vous vous sentez? Combatif,
oui.
Anxieux, déjà fatigué avant d'avoir commencé. Enfin, voilà.
Ouais.
Ça, c'était le clin d'œil de la première, et on n'avait pas vocation à refaire ça à chaque fois. En revanche, sur les ajustements, il y en a eu, ça va continuer. C'est toute la force d'une émission, et d'ailleurs tout le plaisir de présenter une émission qui est mouvante, puisqu'elle est, donc vous l'avez dit, on est enregistré, hein, pas de secret, on n'est pas tourné en direct le samedi, mais on est quand même tourné en toute fin de semaine, donc très proche de la diffusion, et puisque c'est une émission d'actualité.
Oui.
Et donc c'est une émission où chaque semaine on a la possibilité, on repart sur une page blanche, hein. Donc
oui.
On a la possibilité de se dire, bah, ça, on a fait ça la semaine dernière, ça, c'était au bon moment, ça a bien marché, ça a plu, donc on va continuer ça.
Ouais.
Et puis ça, oh, là c'était moins fluide, ou on peut faire mieux. Et on va ajuster. Donc ça, c'est un vrai bonheur de pouvoir chaque semaine démarrer d'une page blanche et se dire, allez, on repart et on retente des choses jusqu'à ce qu'on trouve un format global qui nous convienne et qui convienne aux téléspectateurs.
Et d'ailleurs, le direct n'est pas envisagé, Ophélie. Pour le moment, vous restez sur une phase enregistrée?
Non, parce que on peut aussi expliquer aux gens qui nous regardent que le montage sert aussi à donner du rythme, voilà, à couper parfois quelques longueurs. Donc non, on n'a pas... On est sur une émission qui prend du recul, donc on traite sur des sujets qu'on a eu le temps de mûrir, qu'on a eu le temps de tester. Donc ça n'apporterait pas grand-chose de plus d'être en direct. Je ne dis pas que si un jour il y a évidemment une très grosse actualité, on n'y réfléchisse pas, et je ne dis pas que c'est acté, mais en tout cas qu'on n'y réfléchisse pas.
Ouais.
On n'est pas 100% contre, mais dans la majeure partie du temps, l'émission sera enregistrée la veille ou l'avant-veille.
Bon, on va poursuivre la conversation avec vous, Ophélie Meunier, pour parler de La Grande Semaine. On a plein de questions à vous poser, parce qu'en plus c'est un challenge, hein, pour M6. Il n'y avait pas eu de talk show sur la chaîne depuis 11 ans. Hein, 11
très
années.
Gros challenge.
Ouais.
Donc,
pas trop de pression quand ça va.
Non,
sur les épaules.
Joie d'avoir la possibilité de relever le défi, en fait.
Ouais.
C'est plutôt ça, l'état d'esprit.
On en parle, Ophélie, tout de suite après les news médias de Damien Canivez. Damien, on commence avec l'émission de Bertrand Chameroy en solo qui est déprogrammée sur France 2.
Oui, le chroniqueur de C'est à vous, animé depuis le 5 janvier dernier, un talk show baptisé Bertrand n'a pas sommeil, diffusé en deuxième partie de soirée, mais avec seulement un peu plus d'un demi-million de téléspectateurs devant le dernier numéro diffusé le 8 mars dernier. Forcé de reconnaître que malheureusement, cette émission n'a pas réussi à trouver son public et ne sera donc pas renouvelée sur la deuxième chaîne. Alors ce sont nos confrères de Télé Loisirs hein, qui révèlent cette information. Dans ce programme, Bertrand Chameroy menait des interviews décalées, proposées des sketchs, également des bandes-annonces complètement drôles, hein. Enfin, c'était absolument hilarant, mais il faut quand même préciser que malheureusement pour lui, eh bien, il était sur une case ultra concurrentielle, puisqu'il faisait face à la deuxième partie de Danse avec les Stars sur TF1.
Ouais. Et vous regardez la télé, Ophélie, qu'est-ce que vous regardez
Beaucoup.
Comme programme, comme série peut-être?
Beaucoup, je suis une enfant de la télé, j'ai grandi dans un foyer où, où la télé était pas mal allumée, mes parents sont de l'époque Canal, du Grand Journal et de Nulle Part Ailleurs. Ah oui. Donc j'ai vraiment grandi avec la télévision. Ma consommation de télé est très éclectique. Ça va des grands JT à beaucoup d'émissions de documentaires, évidemment, parce que comme je présente Zone Interdite, je regarde ce qui se fait sur cette thématique-là. Et puis, j'adore les divertissements aussi. Donc vraiment, c'est extrêmement éclectique et j'avoue que je regarde pas mal la télévision.
Vous parliez du Grand Journal. C'est vrai que quand on regarde la physionomie de votre plateau, ça nous rappelle un petit peu aussi le Grand Journal. Avec
alors
la...
peut-être parce qu'il y a le mot grand dans les
lettres. Ah oui, peut-être, c'est
grande,
ça.
Alors les gens, je ne sais pas. Ouais. Alors oui, c'est vrai qu'il y a cette table avec cette bande autour.
La chroniqueur cette table blanche, de part et d'autre.
Les chroniqueurs de part et d'autre. Ouais. Bon, après, c'est un format talk.
Oui, assez classique finalement, vous avez raison.
Oui, tout à fait. Mais en tout cas, si les gens le ressentent, tant mieux. Parce que je trouve que c'est une très belle époque, c'est une très belle émission.
Et vous tournez dans les studios d'ailleurs à côté.
Sur un joli plateau,
et oui, mythique du Grand Journal.
Les fameux studios quai André Citroën dans le 15e, où il y a eu toutes ces grandes émissions de l'époque, la belle époque de Canal+.
Et où vous avez débuté aussi dans le Petit Journal.
Où j'ai débuté, exactement. Ouais, tout à fait.
Alors Damien poursuit ses infos avec Black M, qui soupçonne la production de Danse avec les Stars de truquer les votes.
Ah oui, quelle affaire. Que le rappeur a accordé un entretien à nos confrères du Parisien ce jeudi 18 avril, l'occasion pour lui de réagir à son élimination de ce célèbre concours de danse diffusé sur TF1. Il confie que lui et sa partenaire Elsa Bois n'avaient pas imaginé un instant être éliminés si tôt dans la compétition, mais surtout il affirme que le public a très certainement voté pour lui et que la production a certainement fait en sorte qu'il soit éliminé. Alors voici ses propos. Je leur ai demandé droit dans les yeux, les gars, c'est un peu truqué. Ils m'ont répondu que non, mais je ne les crois pas. Dans l'univers de la télé, ils contrôlent des choses que l'on ne voit pas. En ayant été juré dans The Voice Belgique, je connais cela. Voilà ce qu'il a déclaré.
On ne va pas vous demander de réagir là-dessus, Ophélie, mais vous aimeriez participer à Danse avec les Stars en tant que candidate. Hein. Vous êtes très sportive en plus, je pense que vous serez forte dans cette émission.
Je n'ai pas jamais pensé à participer à Danse avec les Stars, mais en revanche, je pense que j'aime beaucoup l'émission, je la regarde depuis très longtemps et je pense que oui, d'une manière ou d'une autre, une émission de télé où il y a un challenge qui relève du défi sportif, ça peut me parler, oui tout à fait, mais de là à participer à Dals, non.
En plus, c'est sur TF1, vous êtes sur M6, ça paraît un peu compliqué.
C'est ça, c'est-à-dire que la question se pose pas.
Et Cordula y a participé, mais parce qu'elle n'est plus, elle n'a plus d'émission sur M6.
Oui, c'est ça, puis c'est différent. Mais vraiment, c'est en tout cas, je trouve que le principe de relever un défi sportif, je peux comprendre que tous les candidats qui sont passés par Dals aient vécu une belle expérience. C'est un beau challenge à relever sportivement parlant. Je fais beaucoup de danse plus jeune et je sais à quel point c'est un sport exigeant. Donc non, ils ont mon admiration, en tout cas pour les entraînements.
Oui, il paraît que c'est intensif. Hein.
Tout ce qu'ils produisent, le show qu'ils produisent chaque semaine.
On termine, Damien, avec Michel Simès qui s'exprime sur son cancer.
Oui, une maladie diagnostiquée en 2008 que le médecin ultra-médiatique avait décidé de ne pas partager au grand public à l'époque. Alors dans Le Figaro la nuit, diffusé sur Le Figaro TV, il est revenu sur ce moment où les professionnels de santé lui ont indiqué qu'il était malade, qu'il souffrait d'un cancer. Quand on me l'a annoncé, je n'étais plus médecin, j'étais un patient lambda qui s'écroulait, qui se mettait à pleurer devant le chirurgien. Voilà ce qu'il a confié. Aujourd'hui, Michel Simès est guéri, il faut le préciser, mais contrairement à certaines personnalités, lui, il refuse de devenir une sorte de porte-parole de la cause contre le cancer pour éviter, je le cite, une piqûre de rappel à chaque fois devant ses patients.
Alors Ophélie, on voit désormais les personnalités publiques n'hésitent plus à lever le voile sur leur maladie. On l'a vu aussi à l'international avec Kate Middleton, qui a récemment révélé son cancer. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que si vous étiez dans cette situation, vous feriez la même chose ?
Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, il n'y a pas de bon ou mauvais choix de rendre une maladie si grave, publique ou pas. Quand on est une personnalité publique, je crois que c'est un choix extrêmement intime. Je comprends tout à fait qu'une grande personnalité, probablement une des femmes les plus scrutées, les plus photographiées et suivies au monde, comme Kate Middleton, décide d'en faire un combat. Et je crois d'ailleurs qu'après sa vidéo où elle a annoncé officiellement son cancer, il y a eu un pic de consultations pour prévention
au Royaume-Uni.
Ouais. Et je pense vraiment voilà, y a un rôle à jouer et qu'elle a décidé de le jouer, je comprends. Et en même temps, je comprends totalement la position de Michel Simès, qui n'a peut-être pas envie de se rappeler à ce mauvais souvenir, surtout s'il en est sorti et qu'il est guéri aujourd'hui, et qu'il ait choisi, il ait fait le choix de vivre ça personnellement et intimement et secrètement. Je crois que c'est un choix beaucoup trop intime et donc je respecte totalement les deux, je comprends totalement les deux en fait.
Chaque samedi, Ophélie Meunier à 17h45 sur M6, c'est la grande semaine. Alors avant de parler du contenu de l'émission et puis bien sûr de vos chroniqueurs, moi je voudrais savoir comment est né ce programme dans les coulisses. Il faut préciser que c'est le producteur, c'est Winter Productions qui produit déjà, quelle époque,
sur France 2. Oui, voilà. Il produit plein d'autres
choses. Il s'y connaît en talk show.
Oui, c'est un ancien de Canal qui est passé par France Télé et puis qui est producteur maintenant avec Hugo Clément. Ouais. Et donc il s'y connaît dans le format. L'histoire, elle date en fait avec M6. Ça fait pas mal d'années que la chaîne pense à faire revenir ce format de talk show sur son antenne parce que au-delà de l'émission pure, un format de talk show, ce qui est bien, c'est que c'est un plateau d'accueil. Et quand on est un groupe comme M6, assez dynamique culturellement parlant, on a de la musique, on a du cinéma, on se dit c'est dommage de pas pouvoir accueillir aussi tous les talents qui font vivre ce groupe. Donc il y avait cette volonté là et puis et de toute façon voilà, c'est chouette d'avoir une émission d'accueil sur son antenne. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait plus. Donc, on a discuté depuis plusieurs années, depuis plusieurs saisons, avec la direction pour se dire, si on faisait revenir un talk show sur la chaîne et si je le présentais, à quoi ça pourrait ressembler ?
Vous avez toujours été pressenti pour présenter ce talk show ?
Il y a eu plein de gens qui ont été pressentis pour présenter un talk show, chacun avec son parcours, sa personnalité. Je faisais partie de ces gens-là. Oui. Mais il y a eu pas mal de présentateurs et présentatrices qui ont été évoqués et qui ont été pressentis. Et puis, le temps avançant et les projets avançant, il y a eu un vrai coup d'accélérateur qui a été mis à la rentrée 2023. Et là où la chaîne a vraiment été audacieuse et a dit, allez, cette année, c'est l'année où on le fait. Et on a décidé de le faire ensemble. Enfin, en tout cas, on a vraiment décidé que ce serait avec moi. Et on s'est pris dans la main avec le producteur, la chaîne et moi-même. Et on a avancé on a décidé de vraiment bosser pour faire... exister la grande semaine. Et alors, voilà un peu la chronologie.
On l'a dit en préambule, vous êtes entouré par une belle bande. On ne peut pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux, mais on peut quand même mentionner Philippe Manœuvre, Valérie Expert, Baptiste Desmontiers, Nora Malagré. Comment ils ont été choisis ? Est-ce que vous avez soufflé certains noms, Ophélie ?
Tous, c'est... Alors vraiment, le choix s'est fait en équipe. On a tous discuté, rencontré les gens. On a rencontré plein de gens. Et honnêtement, plein de gens très talentueux. Le choix, c'était de vraiment proposer une bande avec chacun sa personnalité et sa spécialité. Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent sur ce plateau et qui sont vouées à parler des mêmes choses. Il y avait une vraie volonté de mettre de l'humour aussi. Ouais. Donc, il y a une grosse recherche d'humoristes ou de journalistes mais qui twistent l'info. Ouais. Et puis, on est allé chercher des gens, on avait la volonté d'aller chercher des gens qui avaient déjà une carrière et un succès là où ils étaient, dans leur métier. Et si vous les prenez un par un, en télé ou pas, ils existent tous déjà et ils sont successful déjà dans leur vie. Et la grande semaine est un bonus et le plaisir supplémentaire de leur quotidien chaque semaine. Donc il y avait une volonté de créer une bande où chacun apporterait quelque chose à sa manière, dans son domaine.
Et vous, Ophélie, on vous découvre aussi parce que vous vous lâchez, vous dansez, vous chantez pour notre plus grand bonheur. Franchement, je suis sûre que les téléspectateurs pensent
pareil. J'ai révélé aux gens que je riais, que je pouvais parfois être un peu drôle.
Mais c'est vrai, vous le sentez, vous aussi. On doit vous le dire aussi, là, après deux numéros déjà diffusés.
C'est très chouette parce que c'est ce que j'ai... Alors, je l'ai déjà raconté, pardonnez-moi, mais c'est pas grave, je le redis. C'était assez marrant avant que ça démarre. J'expliquais que les gens qui me connaissent très bien, dans ma famille, dans mon entourage, dans mes copains, copines, n'allaient pas être surpris, puisque finalement, ils voient...
C'est la vraie Ophélie
La fille du quotidien, quoi. Et puis, probablement, tous les gens qui me suivent sur M6 depuis 8 ans et qui me voient présenter des enquêtes parfois très rudes, voilà, très âpres, dans Zone Interdite ou le JT, parce que je suis aussi une fille parfois très sérieuse et je le revendique et j'aime Zone Interdite plus que tout, très profondément. Donc voilà, tous ces gens-là n'avaient jamais eu l'opportunité encore de voir finalement un peu la Ophélie du quotidien. Donc c'est vrai que celle de la grande semaine, c'est un peu la fille de tous les jours, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est quand les gens me disent « Oh là là, mais je vous découvre comme ça » et finalement, c'est sympa parce qu'on a vraiment le sentiment que c'est vous, c'est le meilleur des compliments.
C'est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. Ouais. Alors, on va parler un peu des audiences. Le premier numéro a rassemblé 453 000 téléspectateurs, 4,4% du public. Le deuxième, 409 000 téléspectateurs, 4% du public. Vous tirez quel bilan? Quel premier bilan? C'est vrai que ça fait que deux numéros.
Alors après, les audiences, c'est une histoire de chaîne et de producteurs. Je peux en parler si vous voulez, mais globalement, c'était vraiment ce qu'on attendait, donc il n'y a pas de surprise. On arrive là.
Il y a tout à bâtir.
Et vous êtes sur une concurrence aussi très rude.
Et on crée un rendez-vous, numéro, et donc on va laisser le temps aux gens.
Vous attendiez à ces scores-là?
De nous découvrir. Donc oui, bien sûr qu'on s'attendait à ces scores-là et on bosse et on est là et on avance et on trace.
Et est-ce que l'avenir de la grande semaine dépend des résultats d'audience? C'est-à-dire que si à
on est sur une chaîne privée, évidemment, qu'on ne va pas se mentir. Maintenant, quel est le temps qu'on va avoir et quel est l'objectif? Très sincèrement, moi, j'ai envie de le savoir sans le savoir. Ce qui m'intéresse, c'est de produire une émission et de présenter aux gens la meilleure émission possible. Et ça, je peux vous garantir que la bande et moi, on fait tout pour chaque semaine et la production et toutes les équipes qui bossent qui sont formidables. Donc franchement, et la chaîne aussi. D'ailleurs. Ouais. Donc voilà.
Pas de deadline, pas d'échéance.
Non.
La chaîne est. Vous fait confiance.
Là, jusqu'à l'été, et on va essayer de.
Et on espère à la rentrée.
Et de vous plaire de plus en plus. Et voilà. Et après, l'avenir, pour l'instant, et on le construit semaine après semaine.
Bon. Alors, on vous retrouve également dans Zone Interdite, vous l'avez rappelé, sur M6, avec un numéro événement à venir sur la SNCF. Celui-là, comptez sur moi, je vais le regarder. Pourquoi la SNCF derrière? Je prends le train tous les jours. D'ailleurs, je suis très triste que vous ne m'ayez pas interviewé, j'avais beaucoup de choses à vous dire.
Vous trouverez certainement dans l'enquête des gens qui porteront la même parole que vous.
C'est à la limite compliqué de trouver des personnes qui vont défendre la SNCF, je pense. Vous avez réussi à en trouver quand même?
Alors là, l'objectif et l'angle de l'enquête était de montrer la face cachée et d'expliquer pourquoi, globalement, il y a aujourd'hui un train sur 10, parfois un train sur 5 sur certaines lignes qui arrivent en retard. Pourquoi, dans un même train, vous avez à côté de vous une personne qui a payé deux fois moins cher son billet exactement pour le même trajet. Pourquoi on manque de rames. Et vous allez voir que les explications sont étonnantes, déroutantes et parfois assez atterrantes. C'est une émission qui fait un chiffre d'affaires positif. C'est une entreprise.
Société SNCF.
On passe de l'émission de la grande semaine.
Grand écart.
C'est une entreprise qui va bien, qui a une bonne santé financière. Et pourtant, du côté des voyageurs et des employés, la gronde n'a jamais, et le grondement n'a jamais été aussi important. Alors pourquoi? C'est ça qu'on a voulu comprendre.
Elle doit trembler, la SNCF, avant de voir votre enquête.
Je ne crois pas qu'elle soit hyper ravie de l'enquête. Ce n'est pas l'objectif non plus. Leur parole est la bienvenue.
Ils ont accepté de répondre à vos questions?
C'est en cours de discussion encore. Ce sera en cours de discussion jusqu'au bout.
Bon, on a hâte de découvrir ça, on en reparlera.
Mais à l'approche, donc elle est diffusée, que vous l'avez dit, le 5 mai, à l'approche des grands ponts de mai, puis des vacances d'été, puis des JO à Paris, etc. Je crois qu'en effet, nous sommes tous concernés par cette enquête.
Elle tombe bien.
Et on va mieux comprendre ce qui se trame.
Ouais. Pas mal. Vous l'avez ça?
Bien sûr, merci. Pas mal le jeu de mots.
Pourquoi la SNCF déraille?
Là, c'était l'animatrice de la grande semaine. Oui.
Alors, on a compté avec Damien, vous êtes la présentatrice de Zone Interdite qui détenait le record de longévité. Ça y est, il est dépassé. 8 ans, 8 années. Vous battez Patrick de Carolis, Bernard de la Villardière ou encore Mélissa Torio qui vous ont précédé. C'est une petite fierté, ça, d'être...
C'est une fierté, la longévité, je ne sais pas. Ce qui est une fierté, c'est de présenter cette émission qui est mythique dans l'audiovisuel dans le paysage, français. C'est 30 ans d'existence, 30 ans de confiance, à la fois des téléspectateurs et à la fois des témoins. C'est ce que je dis toujours, cette émission, elle n'existerait pas aussi sans les gens qui y participent. C'est une émission qui parle de notre société et qui parle de gens ordinaires qui vivent des choses extraordinaires et dans lesquelles on peut tous se retrouver. Et s'ils ne nous faisaient pas confiance et s'ils n'exprimaient pas leur témoignage devant nos caméras un dimanche sur deux, on ne serait pas là. Donc, et c'est une émission qui porte à la réflexion, qui parfois permet de s'évader pour les sujets plus légers, qui permet de débattre, qui permet de se mettre en colère quand il y a lieu d'être, notamment pour l'enquête sur la SNCF. Donc, c'est présenter cette émission, c'est un cadeau. Ouais. C'est un cadeau immense et évidemment, je n'ai pas vu ces 8 années passées.
Alors, un séisme s'est produit quand même dans les locaux d'M6 récemment. Nicolas de Taverneau va quitter le groupe lundi.
Ouais, c'est le cas de le dire.
David Laramendi, effectivement, va lui succéder. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris cette nouvelle, qui d'ailleurs était dans le Figaro, hein?
Oui, c'est le Figaro qui l'a révélé.
C'est Figaro qui l'a révélé. Nicolas est très attaché au Figaro.
Il a bien raison.
Il le dit souvent.
Souvent, donc, il réserve ses annonces pour le
Figaro. C'est le bon
le
endroit
Figaro.
Pour le rappeler.
Vous faites bien. Voilà. C'est un journal de qualité.
Exactement. Donc, on l'a appris en même temps que tout le monde. Hein.
Ah oui, vous ne le saviez pas avant, l'interne,
en tout cas,
personnes.
Moi, je ne savais pas.
C'était le secret média le mieux gardé, franchement.
J'imagine toute petite garde rapprochée de Nicolas qui le savait, c'est bien normal pour préparer ça. Mais non, vraiment, personne n'était au courant, en tout cas, je peux parler pour moi, je l'ai appris en même temps que tout le monde dans la presse. C'était attendu parce que, ça fait 37 ans que Nicolas est à la tête de ce groupe et il est arrivé à un moment, il y a eu une échéance et un âge où on savait tous que c'était, en tout cas, plus les dernières années que les premières. Maintenant, il n'y aura pas de Nicolas dans l'histoire du paysage audiovisuel français. Et c'est sûr que c'est un choc.
Surtout qu'il vous avait repéré. En plus, c'est une rencontre sur le plateau du Tube que vous présentiez à l'époque sur Canal.
Je l'ai dit, je l'ai exprimé sur mes réseaux sociaux. Moi, Nicolas a changé ma carrière professionnelle et je lui en serai toujours reconnaissante. Avoir eu la chance dans sa vie pro de rencontrer un Nicolas de Taverneau, c'est chouette.
Ouais. Et vous connaissez David Laramendi, son successeur?
Oui, absolument. Je connais David de son passage à la tête de la régie publicitaire, puisque dans le groupe, très régulièrement, les programmes et la régie de pub se rejoignent pour aussi travailler encore mieux et ensemble les mains dans la main. Et donc, j'ai eu plein d'occasions de rencontrer David. Donc, c'est une nouvelle page qui s'ouvre avec lui et j'en suis ravie et je suis sûre que ça va très, très bien se passer.
À votre place, Jean-Pierre Foucault était avec nous, à nos côtés, pour répondre à nos questions. Il avait une question à vous poser, je vous propose de regarder et d'y répondre, évidemment, ensuite.
Ophélie, bonjour, merci pour les mots gentils que tu as eu à mon encontre. Ce que je voudrais savoir, c'est que, est-ce que tu ne regrettes pas de trop travailler et que tu ne regrettes pas d'être pas suffisamment auprès de ta famille et de tes enfants? Voilà, c'est ce que je voulais poser comme question. À bientôt en tout cas.
Je suis pas du tout surprise de la subtilité et de la douceur et de la bienveillance de la question de Jean-Pierre. Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a toujours été très très bienveillant envers moi depuis mes tout premiers pas à la télévision. C'est une excellente question. Évidemment que c'est un sujet de femme, un sujet de mère. Ma réponse, c'est je veux justement faire en sorte que chaque jour je trouve cet équilibre pour ne pas avoir de regrets. C'est pas simple.
Ouais, bien sûr.
Je vais pas mentir. C'est une balance, qui est toujours très mouvante et je fais de mon mieux. J'ai pas la formule magique. Je travaille énormément, mais je vois quand même grandir mes enfants largement et je m'en voudrais trop que ce soit pas le cas. Donc je fais très 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 attention à ça. Donc
de vous réserver des moments pour
Jean-Pierre, mes enfants vous embrassent. Voilà.
Ils
vous remercient. Non, mais ils vous remercient pour votre question. Ils vous remercient de vous inquiéter pour eux. J'ai toujours de très, très jolis moments de maman dans ma vie et je ferai en sorte que ce soit toujours le cas.
Ouais, alors peut-être que vous leur transmettrez cette passion pour le running que vous avez. Je voulais parler de ça. C'est incroyable. Là, vous faites des choses incroyables depuis, on le voit sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, les 10 km des Champs-Élysées, les 20 km entre Marseille et Cassis, vous les courez. Comment cette passion vous est venue? Elle est récente?
Alors, c'est vraiment un challenge qui s'est un peu invité à moi dans mon quotidien. Il y a cette équipe de runners dans laquelle je suis qui m'a embarquée.
Il y a plein d'anciens de Koh-Lanta d'ailleurs.
Ouais, c'est une équipe, très éclectique avec des profils de coureurs professionnels et des non-professionnels dont franchement je fais largement partie. Moi, je n'étais pas du tout une grande coureuse. J'ai démarré il y a un an. C'est vraiment très récent. Et puis, je me suis dit, je sais à quel point je suis une grande convaincue des bienfaits du sport dans une vie. Ouais. Donc, pourquoi pas le running, ça peut être chouette.
Et qu'est-ce que ça vous procure? On dit qu'il y a de l'adrénaline. C'est une drogue, hein. Certains le comparent à une drogue.
J'en suis pas là, mais un bien-être. Ça régénère l'esprit autant que le corps. Ça apporte aussi une forme d'équilibre, en fait. Donc, puis comme j'aime bien relever des défis, je crois que vous l'aurez compris.
Oui. Cet été, il y a un marathon.
Un de plus, et il y a le marathon pour tous, qui est le fameux marathon des JO. Donc, je ne cours pas avec les professionnels, je cours avec les non-professionnels, évidemment. Ouais. Mais pour la première fois de l'histoire des JO, on peut courir le parcours du marathon olympique. Donc, c'est une chance incroyable. Un défi aussi, je vais y souffrir.
Le martyr.
On se met avec vous. Mais je suis prête et je suis très heureuse de le faire.
Par la pensée. Merci Ophélie Meunier.
Merci beaucoup.
Alors, je rappelle qu'on vous retrouve chaque samedi sur M6 pour la grande semaine, également sur RTL. Hein, on n'en a pas parlé, en plus vos audiences sont tombées cette semaine, sont très bonnes. Entre 14h30 et 15h30 pour Confidentiel et puis un dimanche sur deux.
Le dimanche
avec Zone Interdite.
La fille du week-end.
Et puis, bon week-end Ophélie Meunier, j'ai envie de vous dire.
Bon week-end. C'était parfait de vous recevoir aujourd'hui.
Je rêve d'une lune de miel en Polynésie.
Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon.
Vous lisez dans mes pensées. Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée.
Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti.
Oh, ne me réveillez surtout pas.
Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble.
Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout?
Oui. Avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre.
Vous faites les mariages aussi?
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.